On en parle.
Internet, iPod, dernière console vidéo, certains ados évoluent dans un monde numérique et virtuel. Quelles sont les limites de ce mode de vie? Est-ce qu'il y a des dangers? Nos adolescents peuvent-ils se passer des dernières nouveautés technologiques? On en parle ce matin avec vous, Frédéric Philippin, avec également une invitée, c'est Pascal Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach pour adolescents à Genève et dans la région de Nyon. Pascal Roux, de nombreux jeunes se promènent jour et nuit, j'ai envie de dire, avec un casque sur les oreilles. Ils passent des heures et des heures à envoyer des messages avec leur téléphone portable ou via leur ordinateur. C'est un mode de vie que vous pouvez observer chez la plupart des patients qui viennent chez vous?
Alors la plupart des adolescents, ouais, en effet, qui viennent sont tous équipés du lecteur MP3, du téléphone portable. Ils ont tous un ordinateur à la maison. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les nouvelles technologies sont vraiment à leur portée, on va dire. On peut même parfois penser qu'elles ont été conçues pour eux. Hein. Ils sont même plus doués que nous, hein, parfois, pour utiliser.
Ils n'ont pas besoin de mode d'emploi.
Ils n'ont pas besoin de mode d'emploi. Il y a une espèce de. Je me demande d'ailleurs parfois si la société de consommation construit pas les produits à destination des adolescents, qui sont en fait une cible, hein, un marché assez important pour eux. Donc effectivement, ils ont tous cette nouvelle technologie à disposition. Mais au-delà de la technologie elle-même, c'est devenu vraiment un accessoire de mode. Par exemple, si on prend le téléphone portable, en fait, les jeunes téléphonent assez peu. Ils utilisent assez peu la fonction téléphone. Ils passent surtout leur temps à envoyer des SMS, à utiliser la fonction vidéo, la fonction téléphone, appareil photo. Mais en fait, utilisent assez peu la fonction même du téléphone, y compris d'ailleurs l'ordinateur. L'ordinateur, vous leur mettez un traitement de texte devant le clavier, ils sont plutôt en difficulté avec ça. En revanche, ils sont incollables pour tout ce qui est surf ou utiliser les chats, MSN, etc.
Mais si je suis un ado, aujourd'hui, en 2008, tous ces outils modernes de communication, c'est mon quotidien, quoi. Je ne peux pas faire sans.
Ouais, je crois que c'est difficile aujourd'hui de se passer de cette nouvelle technologie. On pourrait imaginer, hein, j'ai un père dans mes clients qui a des enfants, des tout jeunes enfants. Puis lui, il a pris le parti de ne pas laisser la télévision à la maison. Ils ont pas de télévision. Donc il crée avec eux des activités, il crée avec eux, donc il s'occupe d'eux, il joue avec eux. C'est un choix qu'il a fait. Mais ses enfants sont jeunes. Je pense qu'arriver à l'adolescence, c'est difficile pour les jeunes de se sentir décalés. Les jeunes n'aiment pas se sentir différents des autres, en tout cas au départ. Après, ils peuvent marquer leur différence, mais globalement, ils n'aiment pas ne pas avoir la même chose que les autres. Donc, ça me paraît difficile aujourd'hui, quand on arrive à 15, 16, 17 ans, de ne pas être équipé. Enfin, le téléphone portable, l'ordinateur, ce sont quand même des progrès extraordinaires en termes de communication. On vit dans une société aujourd'hui qui est compliquée. Et pouvoir, quand on est parent, pouvoir joindre son enfant à n'importe quel moment. Quand on a des copains, de pouvoir recevoir des SMS, etc. C'est important pour les jeunes. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait se passer de ces outils de communication, de cette nouvelle technologie qui apporte un vrai plus dans la vie quotidienne. Ce qui me paraît important, en revanche, c'est de faire une réelle démarche d'éducation autour de l'utilisation. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des excès, il y a des choses vraiment inacceptables auxquelles on peut assister.
Et ces jeunes, ils savent aussi se créer leur monde. Si on prend l'exemple, Pascal Roux, du téléphone portable, les SMS, les textos qu'ils s'envoient, c'est difficile d'y comprendre quelque chose. Ils ont créé un langage qui leur est propre.
Alors, ils ont créé un langage qui leur est propre, qui a un double bénéfice, hein, le langage SMS. Le premier, c'est de gagner simplement de la place. C'est-à-dire que dans un SMS, il y a un nombre de caractères limité. Et puis, si vous dépassez ce nombre de caractères, vous envoyez deux messages au lieu d'un. Donc, les jeunes ont appris à réduire leurs messages grâce à, justement, des abréviations. Ou alors, ils écrivent en phonétique. Ce qui, d'ailleurs, peut aussi amener parfois des confusions dans le message même. Hein. Il y a des incompréhensions liées au SMS qui sont vraiment, ça donne des fois des situations très difficiles au niveau relationnel. Donc ça, ce bénéfice-là est évident. Le deuxième, c'est que effectivement, ça a créé un espèce de jargon. C'est leur propriété à eux, ça leur appartient. Et si vous n'êtes pas initié, vous ne comprenez rien. Donc c'est une façon aussi d'appartenir à un groupe. C'est-à-dire, quand on fait partie d'un groupe social, on a un langage qui correspond à ce groupe social. Et les adolescents, quelque part, ils sont fiers de ça.
Ils aiment bien ça.
Ils aiment bien ça.
Mais il n'y a pas un danger, c'est de s'en mêler les pinceaux, j'ai envie de dire. Comment s'orthographie vraiment un mot? Il peut y avoir une confusion.
Alors ça, c'est ce que les enseignants observent. Hein, moi, j'observe ça aussi quand je travaille avec eux sur leur dossier de candidature ou CV, lettre de motivation. C'est vrai qu'ils écrivent, maintenant en SMS. Donc c'est un vrai problème. Et malgré les correcteurs d'orthographe qu'il peut y avoir sur les traitements de texte, ils ne perçoivent pas les fautes. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à force d'écrire d'une certaine manière, ils en oublient que c'est un jargon. Donc la difficulté, à mon avis aujourd'hui, n'est pas vraiment l'écriture SMS. C'est de ne pas arriver à écrire les deux. C'est-à-dire qu'il faut apprendre deux langues en fait. Et dans un moment où parfois ils sont un peu en fragilité au niveau de l'orthographe, justement, ça génère des confusions, c'est clair.
Alors moi, il y a un phénomène que j'arrive pas à m'expliquer, vous allez peut-être nous éclairer. On a tous observé des adolescents qui passent des heures et des heures ensemble. Ils se quittent, hein. Après seulement deux petites minutes, les voilà repartis dans d'interminables échanges de mails ou de SMS. C'est quoi le problème ? C'est un besoin de rester en contact constamment ? C'est la peur du vide ?
Je ne sais pas si c'est un problème, en tout cas c'est un comportement, ça c'est sûr. C'est vrai que j'ai été très interpellée par ça aussi. J'observe des jeunes qui passent leur journée ensemble. Souvent ils ne se racontent pas grand-chose d'ailleurs pendant la journée. Effectivement ils rentrent chez eux et souvent, bon, quand ils rentrent chez eux, c'est souvent le chat. Hein. Donc ils se mettent sur MSN, c'est assez peu les SMS et assez peu les emails. Peut-être la différence entre un email et un SMS, un mail c'est vraiment un message que l'on envoie et qui contient du texte, hein, y a de l'information et la réponse va être différée. Le chat c'est de la communication directe, c'est-à-dire c'est de la communication courte, c'est de la communication instantanée, c'est-à-dire que vous envoyez le message, tout de suite la personne le reçoit et inversement. Donc c'est vrai qu'on observe ça. J'ai interrogé un jour un jeune en disant « Mais vous passez votre journée ensemble, vous rentrez le soir, mais quel est l'intérêt ?» Puis parfois, il reste jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est un truc qui est quand même assez étonnant. Mais en fait, eux ne savent pas répondre à cette question. Moi, j'en suis venue à la conclusion de cette nécessité d'appartenance. C'est-à-dire, ils ont besoin de se sentir reliés. Ils ont besoin de pouvoir créer du lien entre eux. Ils ont parfois de la difficulté à communiquer en direct, c'est-à-dire en face à face. Donc souvent, ils se disent peu de choses en face à face. Et l'utilisation de l'écrit facilite la communication sur des choses qui peuvent être importantes. Par exemple, les sentiments ou les émotions vis-à-vis des uns et des autres. Et puis, il y a le côté ludique du chat. Enfin, je veux dire, c'est très drôle. Ils s'envoient des communications très courtes. Il y a des petits personnages avec des expressions. Enfin, tout ça, c'est très ludique. Donc, ça fait à la fois, c'est du jeu et en même temps, c'est de la vraie relation avec les autres. Et c'est une façon de dire, j'appartiens à ce groupe. Et si j'appartiens à ce groupe, si quelqu'un chatte en même temps avec moi, c'est que je suis quelqu'un d'important. Donc, ça donne un sentiment d'exister, un sentiment d'appartenance et d'exister en tant que personne.
Pascal Roux, dans cette émission, on parle souvent du rôle des parents. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Mettre des limites du genre, tu passes pas plus de 30 minutes sur ce jeu vidéo, une heure sur l'ordinateur.
Ouais, c'est vraiment très très important. C'est très important. Bon, moi, c'est vrai que je suis très... Je défends beaucoup les limites parce que je trouve que c'est ce qui va donner la colonne vertébrale à un jeune. Donc, je crois que les limites, bien sûr, il n'y a pas de limites générales, de règles générales. Il y a ce qui correspond le mieux à la famille. Simplement, ce qui est important, c'est de rester dans la conscience que mettre des limites à son enfant, c'est lui donner une structure, c'est lui donner une capacité à gérer sa frustration, c'est lui donner aussi cette conscience que dans la vie adulte, il va avoir des règles de fonctionnement et que si on ne lui apprend pas à l'âge enfant et à l'âge adolescent, il aura du mal après en tant qu'adulte. Donc c'est lui apprendre qu'il y a des règles de fonctionnement et qu'on ne fait pas toujours que ce qu'on veut.
Alors c'est peut-être, je ne sais pas, la faute du Père Noël, mais un enfant qui... Un enfant de 12 ans qui reçoit un téléphone portable pour Noël, c'est normal ?
Alors, je ne sais pas ce qui est normal, encore une fois. Je ne crois pas être la personne qui peut dire si c'est normal ou pas. Je trouve important qu'il y ait une mesure. C'est-à-dire, non pas en termes de quantité, de savoir combien ça va coûter, etc., mais plus en termes de hiérarchie. C'est-à-dire, à tel âge, on peut avoir une telle maturité qui va permettre d'avoir dans les mains une telle technologie. Et moi, je crois fortement à ça. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas tel âge, tu n'auras pas tel téléphone. Parce que je trouve important de pouvoir marquer la différence dans les tranches d'âge. À 12 ans, on n'a pas 15 ans et on n'a pas 18, on n'a surtout pas 25. Et un enfant de 12 ans n'a pas les mêmes droits qu'un adolescent de 18 ans. Donc je trouve important de ne pas faire de nos enfants qui ont 10-12 ans des petits adultes qui se trimballent avec le dernier téléphone portable à la mode. Je crois qu'il arrive un moment où c'est une façon aussi de dire à l'enfant, mais il y a une évolution. Et puis pour le moment, à ton âge, tu en es là. Et puis quand tu seras plus grand, tu auras autre chose. Donc c'est pour moi un peu, ça remplace un peu les rites initiatiques qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est une façon de dire aussi, voilà, il y a des tranches d'âge. Et puis il y a des moments où on obtient des choses, des d'autres où il faut attendre. Et puis, c'est une façon aussi d'apprendre à nos enfants que la vie, elle évolue.
Pascal Roux, coach pour adolescents à Genève et dans la région de Nyon. Merci d'être venu ce matin avec Frédéric Philippin. Bonne journée.
Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.